Bonjour Monseigneur Ulrich.
Bonjour Élise.
Vous êtes l'archevêque du diocèse de Lille. Avec vous, on va parler de plusieurs choses, notamment de cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui a fait sa première étape de son tour de France la semaine dernière à Lille. Plusieurs victimes ont témoigné durant cette soirée. Des membres de la commission ont pu répondre à pas mal d'interrogations. Finalement, le but et l'objectif de cette SIAZ, cette commission présidée par Jean-Marc Sauvé, n'était pas tout à fait bien comprise.
Ben non, c'est pour ça qu'il a pensé, le président Sauvé, que c'était important de faire un tour de France pour expliquer davantage. Alors, pourquoi cette commission, elle a été nommée, le président a été choisi, nommé il y a un an. Il lui a fallu du temps pour mettre sur pied, il lui a fallu à peu près 6 mois pour chercher une bonne vingtaine de participants à cette commission, de collaborateurs, etc. Et donc, elle a commencé son travail il y a 6 mois, mais elle a commencé à se faire connaître il y a 6 mois. En faisant un appel à témoignage venu soit de victimes elles-mêmes, soit d'entourages de victimes qui font savoir, etc. Et donc, au jour où la commission est venue la semaine dernière, ils en étaient à 3500 témoignages recueillis au téléphone ou par courrier électronique ou courrier postal, voilà. Et ça, c'était le premier but, c'était de dire cela. Le deuxième, c'était de susciter éventuellement d'autres témoignages en disant peut-être que vous n'avez pas su, que jusqu'à présent vous n'avez pas osé, mais comme il y a maintenant 3500 personnes qui se sont révélées, c'est pour vous le moment peut-être de faire savoir si vous avez quelque chose qui est encore dans votre mémoire et qui trouble votre existence, voilà. Et ça, c'était important. Donc je crois que c'était le deuxième but, c'était de diffuser l'idée que l'appel à témoignage n'est pas terminé. Le président Sauvé est bien convaincu que dans l'Église, mais aussi dans la société française, il y a un certain nombre de cas qui ont besoin d'être révélés parce que, de toute façon, ça trouble tellement la vie des personnes qui ont été touchées dans leur enfance ou leur adolescence que c'est très nécessaire. Voilà.
Effectivement, on l'a entendu parmi les témoignages de victimes ici à Lille. Certaines victimes ont exprimé leur méfiance leur méfiance vis-à-vis de l'indépendance de cette commission vis-à-vis de l'Église, alors que cette commission est financée par l'Église.
Oui, bien sûr, cette commission est financée par l'Église parce que, il n'y a pas moyen de la faire qu'elle soit financée par d'autres. Évidemment, elle pourrait être financée par les victimes, mais c'est pas possible. Et donc, l'Église reconnaît qu'elle a quelque chose à voir avec cela et que pour clarifier la situation, et pour manifester aussi sa vraie bonne volonté à l'égard des victimes, elle finance une commission qui travaille pour éclairer le sujet et éclairer vraiment la façon. Le président Sauvé a indiqué que ce qu'il voulait connaître, c'est les conditions dans lesquelles dans la vie de cette société et dans la vie de l'Église, les abus ont pu être possibles. Et deuxièmement, les conditions dans lesquelles la connaissance des abus a pu être cachée, voilà, pendant des années. Alors, je crois que l'étude qu'ils veulent faire, ils l'ont commencée par les témoignages qu'ils ont reçus, mais jusqu'à présent, les 3500 témoignages sont des témoignages sur lesquels la commission n'a pas réagi. Elle a simplement, je ne suis pas absolument sûr, mais je crois qu'elle a accusé réception aux personnes qui ont envoyé leurs témoignages.
Alors, elle a aussi porté plainte auprès de la justice cas.
Elle n'a pas porté plainte, elle a fait des signalements.
Elle a signalé plusieurs auprès du tribunal de Paris notamment.
Elle ne se porte pas partie civile et elle n'est pas elle-même victime, donc elle ne porte pas plainte. Mais il y a quelques témoignages qui lui sont arrivés qui
n'était pas prescrit.
Voilà, c'est le président Sauvé a dit par dizaine. Voilà, hein. Donc par dizaine, je ne sais pas si c'était une dizaine ou plusieurs dizaines. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas une centaine, en tout cas. Hein, par dizaine, il a évoqué cela. Certains faits qui ont été portés à la connaissance de la commission indépendante n'avaient jamais été dénoncés. Et donc, il a appliqué ce qui s'applique à tout citoyen qui a connaissance d'un abus de cette nature. Il doit faire un signalement. Ben, la commission a pensé qu'elle était soumise à la loi comme les autres et que dès qu'eux savaient quelque chose que la justice ne savait pas encore, il fallait qu'ils signalent au procureur de la République les faits qui lui ont été énoncés. Donc c'est très important. Mais donc le deuxième ou troisième objectif de la commission, hein, c'était d'écouter des victimes qui se sont signalées et qui sont de la région de Lille, auxquelles la commission avait donné rendez-vous la semaine dernière, pour les interroger plus à fond.
Et donc, et ces victimes attendaient des réponses de la part de la commission. Alors, elle est en cours de travail, on l'a bien compris. Il y a un travail archivistique également en cours. On voyait des victimes qui, d'un côté, attendaient des réponses, d'un autre côté, avaient besoin d'une écoute particulière. Oui. C'est ce qu'apporte France Victimes, hein, qui reçoit les témoignages. On les sentait un peu désemparés.
Oui. Mais forcément, pour l'instant, le recueil de l'information était un recueil purement factuel, c'est-à-dire des gens se sont présentés à la commission avec leur témoignage. Ensuite, la commission dit on va étudier davantage les conditions dans lesquelles ces abus ont été possibles, et deuxièmement, les conditions dans lesquelles ces abus ont pu être cachés si longtemps. Ce sont les deux questions auxquelles la commission répond. Et donc, veut répondre pour éclairer le sujet et permettre ensuite à la conférence des évêques, et quand le rapport sera remis, mais pas avant 18 mois probablement, de tirer des conséquences, de tirer des enseignements.
Oui, l'enquête doit durer 2 ans à peu près.
Oui, c'est ça. Et donc, tirer des conséquences, tirer des enseignements, et puis prendre des mesures qui s'imposeront. Nous en avons déjà pris un certain nombre de ces mesures. Hein, voilà.
Et ça, c'est une mesure, cette compensation financière, ce dédommagement financier, en tout cas, a été critiqué aussi dans les rangs de cette réunion. Vous admettez une maladresse de la part de la conférence des évêques de France ?
Je ne sais pas si c'est une maladresse. Je comprends que dans les autres pays, notamment européens, où cette pratique a été instaurée d'une reconnaissance du statut de victime, disons, de ces personnes. Cette reconnaissance a été imposée par les pouvoirs publics. Mais la situation de l'Église en Belgique, en Allemagne, n'est pas du tout, au regard de la société et de l'État, la même que celle dans laquelle nous sommes, nous. Je comprends le malaise de certaines personnes en disant mais qui va attribuer cela, comment cela va-t-il être attribué, à quel type de personne cela sera-t-il attribué, et je comprends cela parce que de fait cela suppose un acte de nature judiciaire. Et il y a quelque chose d'un peu délicat, c'est que cet acte de nature judiciaire, nous ne sommes pas, nous, l'Église, habilités à prendre des actes de nature judiciaire, sauf à titre canonique, vis-à-vis notamment vis-à-vis des auteurs. Mais les évêques sont en juridiction à l'égard des clercs, c'est-à-dire du clergé. Mais ils ne sont pas en juridiction à l'égard des victimes. Voilà. Donc c'est un peu... Je comprends que ce soit un peu compliqué. Je comprends que cette mesure que nous avons prise ne soit pas très très bien comprise. Il faut qu'on comprenne les interrogations. Il faut qu'on sache... Comme cette mesure, elle a été décidée, mais elle n'est pas encore réalisée et que nous avons encore quelques mois avant de la porter vraiment Nous avons encore du temps pour y réfléchir et c'est bien que des personnes expriment ces réticences qu'elles ont, alors que nous pensions, l'épiscopat d'une façon générale, pensait que cette mesure était bénéfique et attendue. Bon, et on constate que finalement, elle n'est pas si bien acceptée que cela.
En tout cas, c'était l'un des points relevés donc, par les victimes et l'Assemblée présente donc lors de cette première étape de la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, qui poursuit son tour de France dans les grandes villes ces prochaines semaines. Autre dossier, et rapidement, Monseigneur Ulrich, les chrétiens viennent de rentrer dans l'Avent. Vous voulez qu'il ressemble à quoi, cet Avent ?
Bien, je pense que... Il y a une belle interrogation à se poser aujourd'hui, c'est de comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui a du mal à faire sa référence à Dieu et au Seigneur, et en partie parce que nous, chrétiens, ne sommes peut-être pas à la hauteur du témoignage. On se rend bien compte qu'il y a des insuffisances de notre témoignage. Et puis parce que la société dans laquelle on est semble repousser tout le domaine religieux à l'extérieur de la sphère d'échange de paroles auquel la société semble s'autoriser. Et donc le religieux est porté dans une espèce de méfiance. On a l'impression que tout le religieux n'est que de l'ordre du privé et du choix privé. Or, on est en train d'apercevoir que ça, c'est très mortifère pour nos contemporains, pour la société. Donc, moi, j'invite les chrétiens à bien réfléchir à la façon dont ils peuvent témoigner vraiment et à essayer de se renouveler dans ce domaine du témoignage qui est si vital, je pense, pour les hommes et les femmes de notre époque, et qui demande de notre part certainement une conversion intérieure, c'est-à-dire que nous n'ayons aucune espèce de prétention, mais la simplicité d'un témoignage, une conversion intérieure, et puis une réflexion sur la façon dont nous pouvons témoigner et dont nous pouvons, en parole comme en acte, être de vrais témoins de l'Évangile. Je pense qu'il y a une purification de notre témoignage qui est appelée.
Un avant placé sous le signe d'une sorte de nouvelle évangélisation, Monseigneur Ulrich.
On peut dire cela. Ce terme n'est pas si simple que cela, mais si simple que cela parce qu'on s'aperçoit que depuis qu'on l'utilise, il veut dire mille choses. Mais je crois qu'une conversion missionnaire, ça c'est le mot que le pape François aime et c'est le mot que j'ai choisi dans la lettre pastorale que j'ai donnée il y a 18 mois et qui continue de s'exercer. Une conversion missionnaire, c'est-à-dire une transformation de nous-mêmes pour apporter notre propre témoignage, dont ensuite nos contemporains feront ce qu'ils voudront, ils accepteront ou ils n'accepteront pas, mais qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y ait une vraie transformation avec le désir d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la bienveillance de Dieu.
Merci beaucoup, Monseigneur Ulrich, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'archevêque du diocèse de Lille.